Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez à fêter Noël ce soir en compagnie des gens que vous aimez. À l'heure où j'écris cette intro, ces épisodes du Winter Special ont majoritairement été enregistrés pendant la période du reconfinement, je ne sais pas encore où je serai le 24 au soir. C'est bizarre. Même quand mes parents étaient ensemble, on n'a jamais vraiment fêté Noël. Ils détestaient ça. Je leur en veux pas, je trouve ça même assez stylé d'une certaine manière qu'ils aient réussi à résister à la pression sociale et on a eu de jolis Hanouka avec un petit cadeau tous les soirs pendant 8 soirs. Ma mère allumait une petite bougie, elle achetait des cadeaux trop mignons. Mais moi cette année, je me suis acheté un sapin. Et mes voisins ont mis plein de guirlandes de déco dans le couloir du 4e étage et je trouve ça super sympa. C'est important de marquer les saisons en fait, je crois, de célébrer l'hiver pour en avoir moins peur, un peu comme la mort. Je pense qu'il faut célébrer la mort. Et ensuite, oui, c'est sûr que l'histoire familiale de chacun complique un peu les choses. Je sais pas si vous avez des grandes familles. J'en veux un peu à Jimmy Fallon de mettre en scène dans ses interviews l'idée de la famille idéale récemment. Moi, ça m'a un peu déprimée. La famille parfaite que forment Judd Apatow et sa femme Leslie Mann et leur fille Maud and Iris et Keira Knightley, ses deux bébés, son mari musicien. Bon, au moins Natalie Portman, elle avoue qu'elle a eu des phases down pendant le confinement. Et voilà. La dépression, c'est tabou, hein. La solitude, c'est tabou. Mais si jamais vous écoutez cet épisode et que vous vous sentez seule, sachez que moi aussi, je suis seule. Je crois que je vais être seule le 24 au soir, les gars. Ma mère sera à la montagne avec des amis à elle, mon père à l'île aux moines avec sa meuf, ma sœur dont je suis pas très proche avec son mec dans la famille de son mec, donc en vrai, ça sera peut-être Minou et moi, quoi. À moins que je trouve des potes chez qui m'incruster, mais cette année, les gens se réunissent en tout petit comité et ils ont peur pour leurs grands-parents, donc c'est délicat d'inviter des étrangers. Voilà, gros big up à tous les solitaires comme moi qui cherchent l'amour, mais c'est compliqué, faut être patient, hein. Et reconnaissant pour ce qu'on a déjà. Moi, j'ai une mère incroyable et je suis très heureuse de vous la présenter, de vous la faire découvrir dans cet épisode. Vous la connaissez peut-être déjà via mon compte Instagram parce que je faisais beaucoup de stories avec elle pendant un moment. On filme souvent nos vacances ensemble et récemment, je l'ai moins filmée. Vous comprendrez pourquoi vers le milieu de notre discussion et j'espère que ça vous touchera et que ça vous donnera envie d'appeler, de voir vos mamans si vous avez la chance de les avoir encore avec vous. Et si vous avez des rapports compliqués avec vos mères, ce qui est aussi possible, j'espère que ça vous questionnera sur la femme de manière générale. Ma mère, vous verrez, parle beaucoup pour les femmes de sa génération, je crois. Bonne écoute. Comment ça va, maman?
Ça va un peu stressée.
Oh non.
Par l'exercice.
Ah, pas du tout. Moi, j'aurais voulu faire un podcast entier avec des épisodes où on parle... Mais je t'écris un petit poème. Ma mère, ma meilleure amie, qui sait mieux que personne me comprendre et me consoler, ma maman, si belle, si drôle, si intelligente, si généreuse, je t'aime. Tu es mon phare dans cette longue nuit de reconfifi et j'espère aussi pouvoir t'apporter du courage, de la joie, de la force. J'adore nos voyages, nos délires, nos stories, on partage énormément. Mais j'ai réalisé que je ne connaissais pas certaines parties de toi, de ta vie, avant moi. Et si tu es d'accord, je vais te poser quelques petites questions aujourd'hui sur toi, ta découverte de l'amour.
Oh, écoute, moi, le premier amoureux, il s'appelait Rémi Sartor. Je devais avoir 7-8 ans.
D'accord.
Et j'étais dans une école, alors c'était une école privée, mais en fait c'était un appartement près de la gare de Lyon.
Ok.
Et c'était une dame, Mademoiselle Doucineau, qui était la seule maîtresse. Et elle ressemblait à Tartine. Je ne sais pas si tu te souviens des bandes dessinées à l'époque. Donc, c'était une femme très âgée avec un chignon. Et on faisait les pitres. On lui donnait des bonbons au poivre, tu vois. On lui faisait...
Ok, les 400 coups. Hein.
Voilà, on faisait des 400 coups. Et
C'était un cours mixte avec
oui,
garçons et
oui,
filles
oui,
d'accord.
Oui.
Catholique ?
Non.
Laïque ?
Parce qu'on habitait à Levallois avant, et quand on a déménagé Beauvoir de la Bastille, pendant quelques mois, je suis allée là. Après, je suis allée sur l'île Saint-Louis.
D'accord.
Et donc là, j'ai rencontré Rémi Sartor.
D'accord.
Tous les après-midi, on allait au Jardin des Plantes pour faire une promenade, tu vois, c'était notre...
Avec vos parents ?
Avec elle.
D'accord, la maîtresse vous amenait
au jardin. Elle nous amenait tous les jours au Jardin des Plantes, donc c'était génial, tu vois, la récréation, c'était dans un grand parc et tout. Et ça durait longtemps, parce qu'il fallait y arriver. Et...
Bah oui, de gare de loin, de Lyon, c'est pas
voilà.
Tout près.
Et donc Rémi Sartor, il était riche.
Ah ouais.
Son père était directeur des Familistères, c'était Jean Franprix à l'époque, tu
D'accord.
vois. Et il avait peut-être 2-3 ans de plus que moi, et il m'étonnait beaucoup. Et je me souviens, on faisait à la fin de l'année, on faisait une fête, une représentation, avec une chanson, etc. Et moi, j'étais assise, on regardait les répétitions, et j'étais assise sur ses genoux, et j'avais des collants rouges, je m'en souviens encore. Et il m'avait caresser les collants, même pas la jambe, mais les collants.
Oh,
j'étais fière.
C'est beau.
Voilà. Ça n'a pas été plus loin.
J'avais
8-9 ans.
8-9 voilà. ans, genre CM1, et lui, il était déjà au collège ?
Non, mais c'était dans la même classe, on était une dizaine, mais D'accord. tu vois, il n'y avait pas de... Elle faisait la même classe à tout le monde, c'était un peu spécial. Hein.
D'accord, un peu Montessori, finalement.
Oui, enfin, Montessori, avec la règle, et elle tapait des doigts. Hein. Mmh. Ouais, Montessori sans Montessori, quoi.
Et t'avais caressé les jambes.
Il m'avait caressé les jambes, voilà. C'était mon premier choc amoureux.
Eh oui.
Voilà.
Rémi Sartor.
Il devait être d'origine italienne.
Ben
avec
oui,
un
parce
nom
que Sartor.
Voilà.
Attends, mais Sartor. D'ailleurs, c'est pas. Ça fait vraiment penser au nom d'un des personnages de Elena Ferrante, de l'amie prodigieuse.
Oui,
il y a pas les Sartor.
Ouais, c'est vrai. Ouais. T'as raison. Ouais, la famille Sartor.
Sartor.
Ouais. Sartor, c'est couturier en italien. Sarto. Voilà.
Et c'est là où tu t'es dit. Que tu te dis, ça se trouve, oui, j'aime plutôt les garçons, je vais tomber amoureuse des garçons.
Ah, j'avais pas de doute avant, j'ai jamais été attirée par les filles, non. Il y en a qui ont été attirées par moi plus tard.
Ah bon ?
Ouais,
c'est
j'étais
vrai
féministe, ouais.
Ah, oui.
Ouais. Il y avait, en fait, j'étais dans un groupe féministe proche de la Ligue.
Ok.
Et donc, on se réunissait régulièrement, il y en avait une... qui avait des vues sur moi. Et bon, de temps en temps, quand on avait des réunions qui se terminaient tard, on restait dormir chez l'une ou chez l'autre. Et donc, je suis restée dormir chez elle, et elle n'avait qu'un lit.
Uh-huh.
Vera, elle s'appelait. Et elle me coinçait contre le mur. Et moi, je...
Ah oui, c'est...
Mais je me suis retournée contre le mur, donc elle s'arrêtait là. Ouais.
Ah. C'était voilà. Un peu offensif, mais elle ne t'a pas forcé.
Non, elle ne m'a pas violée. Non. Voilà.
Mais ça t'a pas assez...
Ça ne m'a pas déclenché. Non.
Non.
Donc
ça, c'était Rémi, de ton amoureux de l'enfance.
Voilà, ouais.
Et ensuite, au collège
Après, j'étais dans une école catholique, là, non mixte, alors là, c'était compliqué. Hein.
Mmh.
Après, bon, je voyais... après, il y a eu mon frère, Jean-François, quand il était en pension, il venait de temps en temps avec des garçons. Donc, il y en a un avec qui j'ai eu une histoire pas très... Enfin, voilà. Je me souviens plus comment il s'appelait.
Pas très heureuse ?
Enfin, ça n'a pas été très loin. Il était, j'avais peut-être 14 ans, 15 ans, et lui, 16 ans, 17 ans. Mais tu vois, il n'était pas beau du tout.
D'accord.
Il était petit, je ne sais pas ce que je lui trouvais, mais il se donnait un air d'un télo, tu vois.
D'accord, et ça t'avait impressionné ?
Ça m'avait impressionné, oui. Et donc...
Puis tu étais peut-être curieuse ?
Et ses parents habitaient dans le 9e, près d'Étienne-Dorf, je me souviens aussi.
Ah,
ils n'étaient pas là, on avait été chez eux.
Ah oui, donc c'était en plusieurs fois quand même.
Tu l'as on n'a jamais rien fait.
Vous n'avez jamais rien
il
fait,
a
mais
essayé,
t'es sorti.
Mais je pense que ni lui ni moi n'étions
Vous en aviez
encore,
pas envie
On ne savait pas.
Vous ne saviez pas.
Non.
Et toi, là, tu as 14 ans à ce moment-là, tu n'as jamais eu aucune forme d'initiation, ta mère ou tes...
Ah non.
Non.
Comment ça ?
Ben, par exemple, tes frères et sœurs, est-ce que tu te souviens d'une de tes frères et sœurs qui te dit, qui t'explique qu'à un moment tu vas faire l'amour ou que ça va... Personne ?
Ah non.
Non, rien.
Non. Quand j'ai eu mes règles pour la première fois, ma mère m'a dit que j'étais une femme.
Ouais.
J'avais 11 ans, mon père m'a donné un verre de vin.
Ouais.
C'était tout.
Bon, c'est déjà sympa, c'est déjà joyeux.
C'était bien, oui. Et puis c'est une amie qui m'a montré comment
dessins.
Se faisaient les enfants, les organes génitaux, etc. Mais pas.
Ah, c'est une amie.
Ouais. Moi, je pense que j'étais la dernière de 8, mais ma mère, elle devait en avoir marre de raconter. Je ne sais même pas si elle l'a dit aux aînés, tu vois.
Oui, c'est une autre génération.
C'est une autre génération, c'est un autre siècle même.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, on ne racontait pas, on ne parlait pas beaucoup de sexe ni de...
Mais par contre, tu voyais tes sœurs aînées quand même, qui avaient des histoires avec des garçons, ça devait quand même un peu éveiller ta curiosité sur les rapports hommes-femmes.
Oui, je me souviens, elle allait souvent... en boîte l'après-midi, je sais pas si c'était le mercredi à l'époque, on n'avait pas cours. Et donc, elle disait qu'elle faisait des courses avec moi. Et puis, un jour, Rue de Rivoli, elle était au Slow Club. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et on s'est perdus. Ça a été épouvantable. Je sais plus comment on s'est retrouvés. Mais enfin, on a su qu'elle n'était pas au Slow Club. Elle était avec un petit copain, tu vois. Donc, je pense qu'après, on n'a pas fait des courses pendant un moment.
Et ça, c'était avec... Et alors ensuite, t'arrives au lycée?
J'ai fait toute ma scolarité sur l'île Saint-Louis.
Sur l'île Saint-Louis, ouais, et c'était donc une école catholique.
Cours Saint-Louis en Lille, ouais. Cours Saint-Louis. École catholique, ouais.
Pour filles.
Ouais. Donc je voyais pas beaucoup de garçons.
Ah non. Ouais.
À part les copains de mon frère.
C'est ça.
Ouais. Et puis en première ou en seconde, je sais plus, j'ai une amie, Véronique. On avait des blouses, tu vois, un uniforme, des blouses bleues. Et puis elle m'avait rien dit... Mais je voyais qu'elle avait de plus en plus de mal à fermer sa blouse.
Ok.
Et donc, elle était enceinte, en fait. Et elle a disparu de la circulation. Après, j'ai su qu'elle avait accouché. Elle m'a raconté, mais même moi, j'étais une copine très proche, tu vois.
Et même
elle l'avait dit à personne. Après, elle m'a raconté que ses grands-parents voulaient qu'elle accouche et qu'elle abandonne l'enfant. Elle avait rencontré un garçon à la patinoire. Et puis après, c'était terminé, quoi. Donc, voilà.
Donc, un gros secret que même toi, sa meilleure amie à l'époque, et elle a quand même réussi à avorter ?
Non, elle a gardé, elle a accouché, elle a eu une petite Karine, ouais. Elle a abandonné les cours, voilà, c'était très dur. Mais elle était très heureuse d'avoir sa fille. Mm-hmm. Elle était seule avec sa mère, elles étaient trois filles. Le père était mort, tu vois, il y avait une fille aussi, puis elle est partie en province, je ne l'ai plus vue. Donc,
mais le papa, elle n'a jamais réussi à recontacter le père.
Non, je ne crois même pas qu'elle voulait le revoir.
Mais elle était heureuse d'avoir eu un bébé quand même.
Donc ça ne donnait pas envie, non. Tu vois, ça faisait un peu peur, quoi.
Ah ouais, c'est clair. Ah ouais, c'est sûr que c'était assez radical. Et donc tu termines ton bac?
Oui, et alors, c'est mon bac à 17 ans.
Ah ouais, tôt?
Ouais, je venais d'avoir 17 ans, comme dirait Dalida.
étais belle comme un enfant.
Voilà, qui vient de naître. Et j'ai fait un an de fac d'italien au Grand Palais. Et là, j'avais un prof d'italien de théâtre. On allait le samedi matin... voir à la Cinémathèque les documentaires de Jean Rouche.
Ok.
Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
De nom.
Voilà, un ethnologue qui faisait des films en Afrique, qui était magnifique et tout. Et donc, il y avait mon prof, je peux dire son nom parce qu'il est mort, Fulchignoni Enrico. Mon prof de théâtre qui faisait aussi... il nous avait proposé de venir le samedi matin voir ces documentaires. Donc, c'était sur le vaudou, tu vois, la possession. C'était assez chaud quand même.
Ouais, mais c'est intéressant.
Ouais, très intéressant. Et puis un jour, il s'assied à côté de moi et il me fait du genou.
C'est marrant, encore le genou?
Oui, pourquoi encore le genou?
Rémi,
ah oui, c'est vrai. Mais je n'étais pas assise sur ses genoux, j'avais pas de collant rouge. Et voilà, donc j'étais très... C'était un peu comme avec la fille qui me coinçait contre le mur, tu vois.
Tu n'étais pas sûre d'en avoir envie encore?
Ah non, mais j'étais effrayée.
Ah, tu étais effrayée, ouais, d'accord. Ouais.
Non, puis il avait 60 ans, plus que ça, tu vois, il était...
Ah oui, donc c'est une agression...
une agression, il a essayé, puis
il
ça
a essayé.
C'est... Voilà, mais après, il m'a pas harcelé plus que ça, quoi.
D'accord.
Voilà.
Et c'était... Et t'avais quel âge?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, j'avais 17 ans.
Ouais.
Et après, je suis allée à 18 ans, je suis partie de chez mes parents. Donc, je suis allée à Nanterre.
Mm-hmm.
Donc, parce que mon père était prof aussi au Grand Palais. Donc, c'était un peu compliqué pour moi parce que tu avais des gens de droite qui l'aimaient bien, des gens de gauche qui l'aimaient pas. Et j'étais toujours sa fille, quoi. Il me jugeait par rapport à ça. Donc, je suis allée à Nanterre et là, j'étais anonyme. Et là, c'était, c'était le bordel déjà, enfin, encore. Nanterre, c'était en 75, 76. Ouais, ouais. Et là, il y avait beaucoup de trotskistes à l'époque.
Ouais, ça devait être un peu sympa quand même, comme ambiance.
Ouais, ouais, ouais. Il y avait un trotskiste qui était venu à la maison, enfin, avec le bouquin d'Arlette Laguiller, tu vois. Mais bon, il a essayé de me draguer. Mais bon, là, c'est. J'avais pas envie de prendre Arlette et le mec en même temps, tu vois. Puis, donc, c'était un package.
Ah ouais, ouais. Pourtant, ça me fait penser à un trotskiste que bien plus tard, tu prendrais le package.
Voilà, ouais. Enfin, ton père, il m'a pas fait lire Arlette. Hein, je l'avais déjà lu. Enfin, voilà. Et puis après, après, je suis partie en Italie. Bon, après, j'ai eu des histoires comme ça.
Mais est-ce que tu te souviens de ta première histoire, la première fois que tu as perdu ta virginité?
Ouais, c'était à Berlin.
Incroyable, d'accord, je sais pas.
Ah bon?
Non, tu m'as jamais raconté.
Ben, j'avais 16 ans. J'avais insisté pour partir en Italie, à Berlin. Je faisais allemand troisième langue. Non, deuxième langue, je faisais italien troisième langue. Et je voulais apprendre l'allemand. Et mon père était contre. Mon père était prof, hein, pourtant, mais il trouvait que ça servait à rien, alors que lui, il avait passé un an en Roumanie et tout. Donc, il m'a fait faire un test d'allemand avant de partir. Et on part, et là, il y avait un coq. Hein. Moi, je l'ai repéré tout de suite.
Un mâle alpha.
Toutes les filles étaient à ses genoux et tout. Il y en avait un autre qui était plus sympa, plus discret, quoi, avec qui je discutais. Voilà. Et je suis tombée sur une famille dont le père était d'origine italienne. Donc, j'ai pas fait... j'ai rien fait comme amélioration de mon allemand. J'ai rien appris en allemand, mais j'ai amélioré mon italien. Ce qui fait que quand je suis rentrée et que mon père m'a fait faire un test, c'était catastrophique. Et donc là, un jour, ouais, il y avait, bon, je crois qu'il avait couché avec toutes les nénettes.
Donc finalement, tu parles du mâle alpha ou de celui avec qui tu arrivais à parler de,
ils étaient deux. Donc le mâle alpha, un jour, il me propose d'aller chez lui et voilà. Et je me souviens, donc on a fait l'amour, et je me souviens, sa chambre donnait sur une cour, et j'ai crié, ça a retenti et tout. Parce que mon père m'avait dit aussi, avant de partir, de faire attention au sexe et à la drogue. Donc j'ai fait les deux, évidemment. Donc j'ai fumé mes premiers pétards à Berlin, et j'ai eu mon premier mec à Berlin.
Et ton premier mec, ça t'a fait mal?
Oui.
Et en plus, c'était pas forcément celui qui te plaisait.
Non, c'était pas mon choix de cœur.
Et celui...
Mais je me suis dit, bon, tant qu'à faire, autant prendre le mec qui avait la plus d'expérience.
Bah oui, oui, oui.
Et voilà. Et puis l'autre, je crois qu'on s'est embrassouillé dans le train du retour. Mais ça, il habitait Bordeaux, donc...
Sans suite. Mais c'est étonnant déjà comment ça crée une dualité entre l'apparence physique, sexuelle et l'attirance du cœur ou c'est étonnant.
Oui, mais j'étais pas romantique, tu vois, c'était pas un truc de romantisme. C'était je vais faire le Mont Blanc, il faut que je m'équipe bien, quoi. Tu vois,
c'est
pas
malin.
Je vais mettre ces chaussures roses.
Au moins, t'étais débarrassée.
Voilà,
tu
vois. Tu fais une recette, tu prends les meilleurs ustensiles et puis tu t'attends pas à ce que ça soit bon, tu veux le faire.
Et justement, quand ta vraie première expérience plaisante où en fait tu t'es rendu compte que ça pouvait aussi être agréable?
Ah bah c'était en Italie, voilà, en Italie ou alors avant, je sais plus, avant l'Italie, j'avais rencontré un avocat que j'aimais beaucoup. Voilà. J'avais été au Maroc, j'avais pas 18 ans, hein, c'était avant mes 18 ans. J'allais retrouver une copine de la fac qui s'était mariée avec un type qui faisait sa coopération au Maroc. Et je devais retrouver là-bas une Suissesse, une copine de Suisse. Elle venait en train de Suisse. Et on devait se retrouver à Rabat. Mais il se trouve qu'il y avait 3 gares à Rabat et je ne l'ai jamais retrouvée. Donc, j'étais inquiète parce que je suis allée à une gare où je croyais qu'elle arrivait. Elle n'était pas là. La veille, j'avais dormi à Rabat toute seule dans un hôtel. Il m'avait mis au dernier étage, au fond d'un couloir. J'avais la trouille, tu vois. J'avais pas 18 ans. Ouais. Et donc j'ai continué mon séjour là-bas sans prévenir mes parents pour pas les inquiéter, tu vois.
Sans que ta copine arrive ?
Sans que ma copine arrive. Et elle était retournée en Suisse, elle avait prévenu mes parents. Mmh. Et moi, j'avais été à Interpol, j'avais fait plein de trucs. Tu vois, je me faisais un cinéma. Et du coup, quand je suis revenue, ils étaient morts de trouille. Et donc, quand j'ai repris l'avion du retour, il était là aussi. Je savais qu'il était avocat, on avait discuté et...
Tu l'avais rencontré à Rabat,
dans l'avion, à l'allée de l'avion. Je l'ai retrouvé au retour. Il était marié, hein, il était avec sa femme. Et donc, je l'avais retrouvé à l'avion du retour.
D'accord.
Voilà. Au 1er mai, il y avait un... Donc, j'allais à tous les manifs du 1er mai.
Tu te souviens comment il s'appelait ?
Nouri.
Nouri ? Il était marocain ?
Nouri était juif marocain, ouais.
D'accord.
Et donc, j'avais été à la manif et il y avait le cortège des syndicats des avocats de France. J'ai regardé s'il était là, parce que je savais qu'il était avocat communiste et tout. Il n'était pas là, mais enfin, j'avais laissé mes coordonnées à un de ses confrères qu'il connaissait, et comme ça, je l'ai revu.
Mais voilà. Waouh, mais c'est fou, ça, ouais, tu ne m'as jamais raconté, c'est beau, cette histoire.
Ouais, ouais.
Mais il était déjà marié, alors ?
Il était marié, oui, mais après, il a divorcé.
Ah !
Mais après, il m'a dit que c'était grâce à moi qu'il avait divorcé.
Waouh !
Ouais, ouais. Mais bon, on se voyait... Moi, je n'étais pas du tout sûre de moi, tu vois. On discutait beaucoup. Bon, là, c'était l'intello, la politique, déjà. Et on...
Vous faisiez l'amour.
Oui, aussi beaucoup. Et voilà, il habitait de rue de Rivoli. Et je suis restée toujours en contact avec lui. Et après, il a eu une sclérose en plaques et il est décédé il y a plus de 20 ans. Parce que c'est lui qui m'avait trouvé l'avocate pour le divorce, mon divorce.
Voilà. Tu te rends compte que, genre, là, je viens d'apprendre l'existence de ce Nouri.
Ouais, Nouri Albala.
Donc, que je ne connaissais pas, c'est étonnant.
Bah non, pourquoi je te raconterais ça ?
Non, mais c'est toujours beau de découvrir les amours que sa mère a eus avant même que j'existe. C'est comme si on a toujours une fascination pour la vie de nos parents avant d'arriver dans la leur. C'est incroyable. Nouri Falbala ?
Albala, non pas Falbala. Albala.
Nouri Albala. Avocat marocain qui te plaisait, qui t'a fait découvrir l'amour et sensuel. Et pourquoi tu sais pas comment ça s'est arrêté, cette histoire ?
Bon, parce que j'en avais marre de. Je voyais qu'il y avait. Non, j'essayais d'avoir une relation plus profonde avec lui, tu vois.
Et c'était pas le moment. Lui, il était pris à ce moment-là.
Non, mais il avait même divorcé après. Mais bon, il était. Il voulait pas s'engager, quoi. Puis j'étais beaucoup plus jeune que lui, quoi. J'avais peut-être 15 ans de moins que lui. Wow.
Et vous êtes retrouvés plus tard ?
On s'est vus, on s'est jamais perdu de vue. Ouais. On n'avait plus de relations, mais on se voyait, on déjeunait ensemble. Ouais. Il était très investi dans les droits de l'homme en Iran. Tu vois, il y avait beaucoup d'opposants chez lui. Il y avait toujours tous les opposants de la terre. Quoi. Donc c'était. On n'était pas d'accord sur Israël déjà.
Pourquoi ?
Bah lui, il était anti-sioniste, tu vois. Très pro-palestinien, etc. Mais oui, en même temps, très attaché à... Enfin, très juif, quoi. On n'arrêtait pas de se raconter des blagues juives et tout. Donc, voilà, très intello et... Ouais.
Nourri. Et tu as continué de temps en temps à déjeuner avec lui, même quand, quand on était enfants, Emma et moi ?
Ah non, non, non. Je crois pas. Il habitait de Rivoli. Non, je pense pas, parce qu'il était étonné quand je l'ai... Oh, peut-être que j'ai déjeuné avec lui de temps en temps, oui, mais pas... C'est tout, hein. Je n'ai jamais trompé ton père. Voilà.
Nouri, et ça, c'est ce fameux Nouri avec un homme plus âgé, un homme pris. Donc déjà, quand même, une découverte de l'amour sensuel, mais avec quand même beaucoup d'ombre dans le ciel, avec déjà des obstacles.
C'est un grand classique, hein. Voilà.
Et ensuite... Ensuite, c'est en Italie ou...
En Italie, à Florence, j'ai passé un an à Florence, où là, c'était vraiment... Ah oui, j'étais amoureuse aussi d'un prof que j'aimais beaucoup, mais bon, il n'était pas amoureux de moi. Donc, c'était très dur, parce qu'en plus, je faisais une émission à une radio libre, tu vois, c'était l'époque des radios libres, et ça s'appelait Très Chouette, et c'était avec une Suisse italienne qu'on faisait ça. Et donc, elle avait l'accent suisse et moi l'accent français, on faisait en italien, mais on passait des musiques françaises, et puis on faisait on écrivait des poèmes, on faisait beaucoup de choses. Et puis il y avait ce type, la Renato, je crois, je ne me souviens plus, qui faisait partie de notre groupe d'amis, tu vois. Et moi, j'avais des vues sur lui, puis on invitait toujours des gens d'extérieur pour réciter un poème ou lire quelque chose. Et lui, une fois, il est venu pour réciter un poème pour une autre, tu vois.
Ah, ouch.
Ouais, que je connaissais, qui était effectivement très jolie. Ah, mais
Aïe.
voilà. Bon.
Là, tu considères que c'est ton premier gros chagrin d'amour, celui-ci?
Oui, oh.
Non, ça t'a pas,
Non,
ça
non,
t'a
parce
pas.
qu'on n'était pas sortis ensemble.
Ouais.
Tu vois, on n'avait rien.
Mais le sentiment
Oui,
très
le
violent.
sentiment, ouais. Le sentiment de. Aussi, je pense que, de manière générale, jusqu'à assez longtemps, je trouvais que je ne méritais pas une histoire d'amour extraordinaire, tu vois. Il y avait toujours mieux que moi, ou que. Tu vois, je n'étais pas sûre de moi du tout.
Alors que quand on voit les photos, t'étais tellement belle,
Bah ouais.
et t'es toujours belle, mais en plus tellement intelligente.
Ouais. Mais tu sais, ça m'a consolée quand j'ai vu des j'entendais des mannequins qui disaient toujours aussi qu'elles se sentaient
Bien
moches et tout.
sûr.
Donc voilà.
Ouais.
Des femmes intelligentes, j'en connais pas beaucoup qui se sentaient connes, hein. Je pense que je crois que c'était surtout la beauté qui comptait, quoi. Enfin, il fallait être beau et intelligent. Alors que moi, bon, en tant que féministe aussi, puis j'aimais pas quand j'étais petite, j'avais les cheveux bouclés et dans la voiture, on me coiffait avant d'aller voir la famille ou des amis. Et ma mère me disait toujours, pour être belle, il faut souffrir, tu vois. Alors j'avais pas envie de souffrir, quoi. Voilà, donc je faisais pas tellement attention à moi et voilà.
Et comment tu conciliais le fait d'être féministe, féministe engagée, et d'être assez romantique, et en plus de t'éprendre pour des hommes, là, de ce que tu décris, souvent plus âgés que toi, souvent des profs, souvent des hommes dans une situation
Ouais.
d'autorité, de pouvoir que...
Bah, je crois qu'on est très contradictoires, hein.
Ouais.
On est très contradictoires, tout le monde, hein.
Mais t'as toujours, en fait, été attirée par des hommes que t'admirais.
Voilà, ça c'est sûr. J'avais une histoire à Florence avec un type qui était gentil, mais voilà, il était très attaché à moi. Il était autodidacte, petite frappe, tu vois. Il avait eu un passé un peu de
Ok.
délinquant.
Stylé.
Ricardo, hein?
C'est que c'est
Oui,
bad
ça
boy.
changeait.
Ouais, le bad boy.
Ouais. Il avait une petite maison sur une colline à côté de Florence, voilà.
Oh, wow.
Et il travaillait avec un copain à lui, il faisait des sacs.
Ok.
À Florence, tu fais des sacs ou des pizzas, hein, je veux
Ouais.
dire.
Des
Et donc,
chaussures.
ou des chaussures. Et donc, voilà. Mais il était très intelligent, tu vois, mais il n'avait pas la culture. Et
L'intelligence du
bon,
cœur.
voilà.
Et avec lui, t'as eu une histoire.
Ah oui, mais bon, ça s'est
C'est
arrêté.
toi qui l'as lourdé.
Ouais.
Et essentiellement, avec lui, ça se passait bien?
Ça allait, ouais.
Ouais. C'est
Oh ben en
qui?
général, ça allait. C'est ça,
Ouais.
je veux dire, si ça n'allait pas, ça durait pas.
Bah ouais. Mais est-ce que t'as un souvenir, genre, du meilleur coup de ta vie, quoi? Est-ce que c'était nourri ou un homme où vraiment... Est-ce que tu penses qu'avec chaque homme, c'était bien de façon différente en fonction de la relation? Ou est-ce que tu penses que parfois, dans ton expérience, donc de tes 16 ans à, on va dire, jusqu'à papa ou ta vie de mère, disons, entre cette période-là...
Les trois étoiles, il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est vrai, mais j'en ai eu quelques-uns, ouais. Ouais. Pas énormément, mais quelques-uns, ouais. Pas forcément en Italie, hein. C'était pas.
Tu veux dire à ton retour en France?
Oui. Oui, on entend en France et j'étais. Bon, je papillonnais, quoi, jusqu'à ce que je connaisse ton père. J'étais vraiment. À l'époque, on était très.
Très libre.
Très libre et puis pas attaché. Mais tu vois, ma contradiction, c'est que j'avais des histoires comme ça sans lendemain ou avec des fois deux ou trois en même temps. Et en même temps, je voulais un enfant, quoi. Et donc, quand j'ai rencontré ton père, voilà, je me suis dit, ça y est, c'est le profil qui convient, quoi. Oui. Et donc,
ton désir d'enfant a été plus fort que peut-être ton envie, peut-être que ton besoin qui était de t'épanouir sexuellement en tant que femme à ce moment-là faire des découvertes.
Bah oui, parce que j'allais avoir 30 ans, je me disais que ça y est, c'était l'époque. Voilà. Puis j'étais la dernière, tous mes frères et sœurs avaient des enfants, moi j'étais la dernière de 8, tu vois. Mm. Pas d'enfant à 30 ans, alors que ma mère à 30 ans, elle en avait déjà 5 ou 6, quoi. Mm. Bizarre. Mm. Donc c'est vrai que là, mes contradictions se sont aplanies. Mm.
Et c'était un bisexuel, c'est avec qui tu étais avant papa ?
Ah, oui. Oui, ça n'a pas été... Oui, je l'ai... il était médecin, il jouait dans un orchestre, je le trouvais très sympa, très beau et tout. Et puis, voilà, on est sortis ensemble, puis quand il m'a dit qu'il était bi, ça m'a refroidi. Quoi. Mm. Et je l'ai quitté, il a insisté, et je lui ai dit non, il faut... Assume, quoi. En fait, il est retourné avec la femme avec qui il avait eu déjà un enfant, il y en a eu un autre. Et puis après, je l'ai rencontré à un anniversaire. Après, il est devenu vraiment homosexuel, quoi. Mm. Mais ça a pris du temps. Hein. Mm. Voilà.
Mais donc, encore, donc beaucoup aussi, donc dans ton expérience, beaucoup d'expériences d'hommes qui n'étaient pas disponibles.
Oui, ouais, ouais. Oh, ça, c'était un grand classique. Ça n'a pas bougé, l'histoire se répète.
Ouais.
Ouais. Bah oui, parce que ceux de mon âge ne m'intéressaient pas trop. Voilà. J'étais toujours avec des mecs plus âgés, hein, ça c'est sûr. Hein. Et puis voilà.
Mais du jour où tu as eu des enfants, où tu étais mariée, tu n'as plus du tout regardé les hommes ?
Non. Non.
Tu te laissais...
J'ai fait ouais. J'ai fait vraiment un mur, j'ai mis un mur, ouais. J'ai pas vu... Je crois qu'une fois, un mec m'a draguée et ça m'a fait quelque chose, ça m'a fait bizarre, quoi. Non, non. J'étais très... si tu veux, à partir du moment où je m'engageais...
Entière.
J'étais entière. C'est ton père qui voulait qu'on se marie, donc j'ai dit, bah d'accord, mais à la synagogue, tu vois, je voulais... Et puis bon, ce que j'ai dit à la synagogue, pour moi, ça, je m'engageais quelque part, donc il fallait que je tienne cet engagement. Et voilà. Et je pouvais plus être double. Autant avant, je pouvais faire. Mais là, c'était. Ma vie, elle était pleine de vous et de ton père, tu vois. Il n'y avait pas de place. Et puis le travail aussi. Donc, voilà. Je ne savais pas mentir. Je n'ai jamais su mentir. Donc, comment j'aurais fait, quoi ? Je ne savais pas. Tu vois, quand j'ai des histoires comme ça à droite à gauche, bah, tout le monde en avait. Donc, on n'allait pas se raconter. Hein. C'était pas les. Comme ça s'appelle maintenant, tu sais, des histoires où les
polyamour, couples,
les voilà,
les troubles,
voilà. Tu le disais pas, quoi. Donc je mentais pas.
Et puis t'étais pas du tout une attitude de séductrice.
Non. Non, j'ai jamais eu une attitude de séductrice. Mmh. Vraiment. Ouais.
T'étais voilà. Toujours été romantique. Enfin.
Bah sur. J'attendais que ce soit l'autre qui fasse le premier pas.
Ah oui.
Ouais, beau être féministe. Hein. Mmh.
Ouais. Et donc, je remarque que t'étais quand même attirée par des mecs beaux. T'aimes la beauté.
L'intelligence d'abord. C'est l'intelligence qui primait. Non, ils n'étaient pas tous beaux. Hein. Mmh. Non, non, il fallait qu'ils soient intelligents, qu'ils soient drôles. Bon, ils n'ont pas tous été, mais qu'ils soient surtout un télo, ouais, ça
parce que moi, je me souviens, quand j'étais petite, souvent, tu disais, oh, Robert Redford. Tu parlais de Robert Redford et je voyais que le physique de Robert Redford...
Ouais, enfin, je savais que je n'allais jamais le voir.
Hein, non, bien sûr, mais quand même, ça te faisait quelque chose,
bien
quoi.
Bien sûr, bien sûr.
Je veux dire, la beauté masculine, ça te fait quelque chose.
Ah bah oui, bien sûr, ouais. Encore maintenant, hein. Mm-hmm. Mais j'allais pas, j'étais pas attirée par les hommes beaux parce qu'ils étaient beaux, tu vois. Mm-hmm. Si, quelques-uns en Italie, mm-hmm. peut-être, oui. Mm-hmm. Mais c'était pas.
T'es quoi pour toi un homme beau physiquement ?
Ouais, c'était les yeux, le regard, brun. Les mm-hmm. blonds, ça m'attirait pas du tout. Mm-hmm. Pas des yeux bleus non plus, pas à rien.
La virilité ?
Voilà. Oui, il fallait pas maigre, il mm-hmm. fallait pas qu'il soit maigre non plus. Mm-hmm. Voilà. C'est tout. Hein. Mm. J'étais pas très difficile sur le physique. Mm. Ma sœur, j'ai une sœur, il fallait qu'il ait elle. Ce qu'elle regardait, c'était les yeux et les chaussures. Il fallait qu'il ait des mocassins. Voilà. Et qu'il soit médecin. Bon, elle a jamais épousé de médecin. Je sais pas s'ils avaient des mocassins, mais... Donc, non, j'avais pas d'a priori physique autre que... Il fallait pas qu'il soit blond aux yeux bleus.
Mmh.
Voilà.
C'est marrant, ce Nouri Albala, quand même. Mmh. Un avocat. Donc, au final, tu dirais que avant d'avoir des enfants, si tu devais les compter sur une main, tu dirais que tu as eu combien de grandes histoires qui ont compté ?
Sur une main ? Ah oui, sur une main, oui, les histoires, oui. Mmh. Oh, 3-4.
3-4.
Mmh. En Italie, j'étais avec un Argentin, ouais. Et déjà, à l'époque, je voulais des enfants et lui, il n'en voulait pas. Donc ça, j'ai arrêté aussi.
Et il n'était pas exclusif, lui, non plus, c'est ça ? Si ?
Comment ça ?
Il ne t'avait pas trompé ?
Si.
Ça, j'ai un souvenir que tu...
Mais je ne le savais pas, je le suis après.
Mmh.
Mmh. Et quand on s'est quitté, il m'avait appelé pour qu'on... Tu vois, il était avec la fille, une uruguayenne, que j'avais connue, hein, que j'avais vue... Et donc, en fait, il continue à la tromper, parce qu'il m'avait même proposé de passer un week-end à Venise avec lui, tu vois.
Ouais, il était polygame, quoi.
Ouais. J'y avais pas été, j'étais pas allée.
Donc, quand même, en fait, finalement, t'avais été avec pas mal de figures, de, entre guillemets, d'artistes, d'intellectuels, d'hommes assez libres, à tout niveau. Donc, c'est vrai que peut-être aussi, en tout d'un coup, en te plongeant dans une vie de famille, en ayant des enfants et en choisissant un homme assez... Enfin, cérébral, parce que de son parcours politique, tu voulais sortir un peu des 70s, entre guillemets, quoi.
Oui, et puis je pense que finalement, j'ai jamais été au bout de ce que je voulais, finalement, de ce que je désirais, qu'est-ce que je voulais. Tu vois, j'ai pas eu l'impression d'avoir tellement choisi, moi, ma vie amoureuse. Comme je te disais, je draguais pas, ça se faisait pas à l'époque. Bon, je pouvais dire non, tu vois, mais je savais vraiment, c'était un peu le brouillard, quoi. C'était pas clair dans ma tête. Ce qui a déterminé mes choix, c'était le désir d'enfant. Sinon, avant, je travaillais, j'avais des copines, bon, toutes, on racontait nos problèmes de mecs, hein. Déjà, c'était souvent ça, tu vois, macho, etc. Et donc, je voyais pas de... J'étais pas homosexuelle, donc j'avais pas non plus un choix énorme, tu vois, d'alternative. Et je savais pas... Bon, j'avais... Les types gentils, j'en ai eu quelques-uns qui étaient très amoureux de moi. Et ben, il y en avait un où j'ai quitté. J'arrivais pas à être... Tu vois ? Un grand classique, là encore, tu vois ? Quelque chose comme si j'attendais de répéter un peu l'histoire familiale, de me marier, d'être tu vois, parce que j'ai changé du tout au tout quand j'ai rencontré ton père, quoi. J'ai plus d'histoire comme ça, droite à gauche, je me suis rangé des voitures, j'ai eu des enfants. C'est comme s'il fallait que j'accomplisse cette histoire-là, que je revive un peu ce que ma mère avait vécu, pour me libérer et après être vraiment...
Redevenir femme.
Voilà. Et maintenant, tu vois, ce matin, je discutais avec une copine, une amie commune, elle est en train de divorcer, elle a une histoire amoureuse, mais elle veut pas vivre avec ce type-là, parce qu'elle supporte pas que sa façon de manger, sa musique, ça. Et cette amie me disait, mais je comprends pas pourquoi elle... Ben, je dis, moi, je comprends très bien, elle s'est fait chier. Elle ne veut plus faire de la cuisine, alors que quand elle était mariée, elle faisait des plats incroyables et tout. Elle a changé du tout au tout.
C'est une troisième période.
Voilà, je pense que c'est une troisième période, ouais.
Quand tu sais mieux ce que tu veux et ce que
tu veux. Quand tu sais mieux ce que tu veux et que tu trouves, bon, après, malheureusement, quand tu sais mieux ce que tu veux, tu viens plus âgé, donc le choix se rétrécit.
Mais les hommes plus âgés te plaisent aussi ou
quand maintenant
tu... Oui. Ou en fait...
Non, là, ça va. Non. Bah, plus âgé, ça serait embêtant, parce que... Non, de mon âge. J'ai pas... Bon, de toute façon, en ce moment, ça, c'est pas le moment.
Non.
Voilà. Parce que je suis malade. Et voilà, et quand je serai plus malade, eh ben, on verra. Je pense que... Je m'occuperai de moi, et puis si l'occasion se présente, on verra, mais je ne vivrai plus avec quelqu'un, non, je ne pense pas. Non.
Comment Tu parles de manque de confiance en toi et que finalement dans ta vingtaine, il n'y avait qu'une seule chose dont tu étais sûre, c'est à la fin de ta vingtaine de vouloir être mère, mais qu'au final, justement, c'est pas d'une impression que c'est pas toi qui décidais et que finalement c'était la vie qui décidait un peu pour toi. Comment t'as appris à te protéger et à t'aimer? Moi, je me souviens d'un truc que tu me dis quand j'étais adolescente, quand j'étais malheureuse ou quand j'étais stressée. Tu m'as dit, tu es ta propre meilleure amie, sois douce avec toi. Tu m'avais vraiment appris à m'aimer moi-même, à créer une espèce de dédoublement d'intimité pour être indulgente.
Oui.
Comment est-ce que toi, tu... Est-ce que
J'avais fait des analyses, j'ai tout fait aussi. Hein. À un moment, il y avait la mode du rebirth, je ne sais pas si tu connais.
Non.
C'était des thérapies comportementalistes où tu faisais des week-ends. Alors, ça se terminait souvent en coucherie, hein, faut dire ce qu'il y est, où tu revivais ta naissance.
Waouh! Ouais, c'est un délire!
C'est un délire, ouais. Donc, tu te mettais en hyperventilation, tu vois.
Wow.
Mais c'était très bien, c'était en même temps assez révélateur et libérateur. Et donc, tu revivais des douleurs. Et tu pouvais t'en libérer et t'extraire de ça. Il fallait y croire. Et alors, tu avais d'autres exercices, la gestalt, tu vois, tu prenais un coussin à qui tu t'adressais comme si c'était la personne qui t'avait fait mal quand tu étais petit, tu vois. Il y en a eu des coussins. Alors, tu pleurais, les autres étaient autour de toi, et puis ils te consolaient, et puis tu... Voilà. J'avais connu une femme qui était... tu vois, j'avais 20 ans à l'époque quand je suis revenue d'Italie. Et elle avait déjà 60 ans, elle avait perdu un fils, et elle pleurait tout le temps, quoi. Elle n'avait pas du tout accepté la mort de son fils, et elle habitait à Saint-Nazaire, et je suis restée très longtemps liée à elle et amie avec elle. Et voilà, et donc je savais aussi qu'il fallait se parler à soi-même, et voilà, ça je ne l'avais pas oublié, je ne l'ai pas toujours fait. C'est-à-dire, je me parlais à moi-même et ça va quand il n'y a pas une autre voix qui te dit « Mais non, faut pas faire comme ça, tu te trompes, c'est pas ça, tes intuitions, elles sont pas bonnes, c'est toi qui te plantes, t'es pas sympa avec lui, voilà. » J'avais pas l'intuition. Tu vois, l'intuition, c'est encore autre chose. Ça, je trouve que toi, tu l'as quand tu sais qu'une personne te... Si, quand même.
À force de les développer. Maintenant, voilà. Je l'ai. Bah, c'est sûr que les épreuves.
Voilà.
Mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai du mal avec une forme d'autorité masculine. C'est-à-dire que bon, je trouve ça quand même assez désagréable. Ça m'est arrivé hier. Je te raconterai plus en détail quand on aura fini l'enregistrement. Mais j'avais l'impression, quand même, avec le type, de pas trop pouvoir en placer une. Et que même s'il n'était pas malveillant, il savait mieux que moi.
Ah.
Et sur le moment, je ne sais pas si c'est notre construction ou quoi, ou si c'est de la modestie de ma part, hein, en toute sincérité, mais où je n'ai pas la force de... Sur le moment, moi, j'attends une conversation d'égal à égal. Donc en fait, si l'autre impose, il sait mieux, en fait, ça me...
Ah oui, c'est pénible.
C'est pénible.
Ah oui. Non, moi, je n'avais pas ce problème-là. Je veux dire... En général, il me, tu vois, je nourris par exemple, il me trouvait très intelligente, on discutait, c'était, voilà, c'était, j'avais pas, je pouvais en placer une, tu vois. Mais c'est moi qui me sentais en dessous de tout, quoi. Je n'osais pas, et finalement, j'arrivais à parler, il me mettait en confiance, donc ça allait, il ne m'abaissait pas. Donc ça, c'était bien. Et je me sentais pas plus, moi, c'était avec les femmes de pouvoir, ça, je me sentais pas du tout.
Ah oui?
À la hauteur, tu vois. Elles m'effrayaient et je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Mais elles avaient certainement raison, tu vois. Moi, je n'étais pas, pas une femme de pouvoir. Ça m'a pris beaucoup de temps à pas le devenir, mais à ne pas regretter de ne pas l'avoir été, tu vois. Et l'intuition, c'est autre chose que de se parler à soi-même, de se consoler. Tu vois. Parce que tu te consoles une fois que... Tu te consoles en te disant, je pouvais pas savoir, voilà, c'est pas moi qui étais responsable, j'ai pas fait de mal, c'est pas moi qui me suis trompée, etc. Et j'avais pas l'intuition pour me dire avant, voilà, t'es dans la même, t'es pas dans la bonne direction, là, je sentais des trucs, je voyais des trucs, mais je l'écoutais pas, mon intuition. Voilà. Et après, ça m'a pris beaucoup de temps de l'écouter, mon intuition. Tu vois, quand t'étais petite, je t'ai pas dit, écoute ton intuition, tu vois. parce que je ne le savais pas. Parce que j'avais des intuitions à ce moment-là quand j'étais petite et que je me disais, mais non. C'est comme, tu sais, comme là, j'ai regardé sur Netflix une série policière. Quand tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas mettre en examen un type. Tu peux avoir des soupçons.
Bah, l'intuition, avec l'intuition, il y a la conviction. C'est-à-dire qu'il faut...
Des pièces à conviction.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, et en fait, il faut toujours un minimum de confiance en soi pour suivre son intuition.
Voilà.
C'est se dire qu'on a raison de suivre son intuition. C'est se dire, a priori, je sens que... Et c'est vrai que, en tout cas, c'est vrai que moi, j'essaie de le faire aussi, surtout dans le travail, de me séparer des gens... Oui, où je sens que ça fonctionne pas, et pourtant même je déteste ça. C'est pas parce que je trouve ça déjà très compliqué de rencontrer, de créer une alliance, de se dire on va travailler ensemble, on va créer un partenariat, puis ensuite quand on voit que ça marche pas et qu'il faut dire aux gens ciao, c'est vraiment très dur. Mais c'est vrai que c'est indispensable pour pas se laisser marcher dessus quand même. Mais bon, moi je te ressemble beaucoup aussi, hein. Je te ressemble énormément. C'est marrant parce que tu vois. Alors après, je sais pas si c'est toutes les femmes, mais j'ai aussi eu le, bah, la malchance ou le parcours de rencontrer des hommes qui étaient pris. Après, est-ce que c'est pas toutes les femmes? C'est Blanche Gardin qui le dit. Hein,
tu vois ouais, je crois que c'est un grand classique, hein, de toute façon.
Mais par contre, t'as toujours été très douce et très... Moi, tu m'as appris à être féministe vraiment... dans le cœur, c'est-à-dire pas que par principe, mais je me souviens qu'à chaque fois que j'avais des amis, tu étais toujours très douce et affectueuse avec mes amis. Tu leur disais « Oh, comme tu es belle, comme t'es bien faite ou bien habillée. » Tu étais toujours... Ou même quand on regardait des films et qu'il y avait une actrice, tu disais toujours « Qu'est-ce qu'elle est belle !» Et tu te mettais jamais... Tu étais toujours admirative de... Et puis des femmes, et en plus tu me donnais des livres de femmes, tu m'as donné Colette à lire, tu m'as toujours donné...
Anaïs Nin aussi.
Alice Détective.
Alice Détective.
Donc tu m'as donné des héroïnes.
C'est pas très féministe, Alice Détective.
Non, mais c'était une héroïne.
Ouais, c'est vrai.
Et tout le monde disait Tintin, Spirou,
voilà.
Et puis tu aussi, tu me faisais écouter des femmes qui chantent.
Barbara. Là, j'ai une apprentie au travail, tu vois. Et bon, elle est en BTS, c'est pas exactement sa place, mais elle l'avait pas trouvé dans une entreprise, et moi je suis ravie de la voir. Et je lui explique que bon, je vais pas lui apprendre des choses dans sa spécialité, tu vois, les facturations, des choses comme ça, c'est pas ce que je fais. Mais je vais lui apprendre des choses de base qui lui serviront toujours. Et quand elle fait des erreurs, je lui dis c'est pas grave, ça, c'est... parce qu'elle avait peur, tu vois. Je lui dis, moi, quand je suis arrivée là, il y avait des choses que je comprenais pas, que je connaissais pas, et c'était très mal vu de faire des erreurs, et je lui dis, mais c'est pas grave, tu vas pas apprendre, si je te casse, tu vas pas progresser. Donc c'est pas grave, voilà, tu l'as fait, ça arrive, c'est voilà, puis la prochaine fois, bah, tu verras, si t'as confiance en toi, t'en feras moins, et puis si t'en fais une, c'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, tu vois. Parce que, on demande aux gens d'être, en ne faisant pas d'erreur, d'être parfait. Eh ben non, on n'est pas parfait, voilà. Et on se plante tout le temps. Et on se plante aussi dans la vie. Voilà, faudrait vivre une deuxième fois.
Mais c'est ce qui se passe quand on vieillit.
Ouais.
C'est quand même...
Ben oui, mais on n'a pas les... On a les acquis psychologiques, de l'expérience, mais le corps n'est plus le même. Et la santé non plus. Et la sagesse, oui, est là. Ouais. Je crois que quand on, même si ça prend des années à évoluer, si on évolue dans sa vie, eh ben c'est déjà ça. Il y a déjà des gens qui évoluent pas du tout, tu vois. Donc moi, ça m'a pris des fois 10 ans, 20 ans avant de prendre une décision, mais je l'ai prise. Il y a des gens qui l'apprennent pas. Donc et je pense que j'étais sage d'une certaine façon, mais bon, de passer à l'acte.
L'amour, t'aura pas apporté tant de joie que ça dans la vie, parce que finalement, c'est plutôt l'expérience de la maternité et l'expérience de ton
travail. Oui, c'est vrai. Et puis l'Italie, quand même, a apporté beaucoup de joie. Enfin, c'est pas une personne, c'est un pays. Non, mais j'étais heureuse aussi avec des hommes. Non, j'ai pas été malheureuse, j'ai eu des grandes joies. Des grandes joies. Mais voilà.
Donc, je vous ai connus très amoureux, papa et toi.
Bien sûr, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, on s'est connus en janvier. je t'attendais en août, j'étais enceinte, tu vois. T'es née en mai de l'année suivante, non, non.
T'es vite tombée amoureuse de lui.
Oui, tout à fait, oui, oui. Ouais.
Mais bon.
Ouais, ouais. Donc quand t'es amoureuse, tu vois pas certaines choses que tu... tu sais, tu fais pas le tri, c'est comme tu rentres dans un grenier, tu vois, waouh, il y a plein de choses, c'est magnifique, puis après, tu vois dans le détail, quoi. Et ça, tu peux le voir que quand tes yeux se sont adaptés au noir et au bordel qu'il y a dans un grenier, puis voilà, tu fais la différence, tu fais le tri.
Et après,
il faudrait pas faire le tri, il faudrait toujours rester émerveillé par la découverte du grenier, quoi.
Puis après, papa, t'as été amoureuse d'un autre homme, mais bon, qui est tombé malade.
Ouais.
Et par rapport à cet amour, t'arrives aujourd'hui à en faire le deuil?
Bah oui. Je fais le deuil alors qu'il n'est pas mort, tu vois, et qu'on a toujours un contact, quoi. Mais oui. Oui, oui. C'est compliqué, quoi, d'être. Maintenant, ça va. Enfin, je l'ai fait complètement depuis que je suis tombée moi-même malade, quoi. Donc. Mais même avant, c'était. Il y a un attachement, mais c'est beaucoup de souffrance, quoi. Je me rends compte que de vivre avec quelqu'un de malade, ça entraîne une énorme souffrance dans l'entourage. Et j'en suis pas voulu d'être tombée moi-même malade et de créer cette souffrance, mais je m'en rends compte parce que je l'ai vécu moi-même. Et
il y a plein de façons d'être malade, et toi, t'es pas malade de cette façon?
Non, non, j'essaie de pas me plaindre et d'être...
Non, t'es extrêmement courageuse. T'es tombée malade en juin dernier. Enfin, ouais. En juin dernier, on t'a détecté un cancer du sein. Et la première chimio, c'était...
16 juillet.
16 juillet. Bon, à partir de la rentrée septembre, tu travaillais à nouveau dans ton lycée.
J'ai même commencé à travailler plus tôt.
T'as commencé fin août. La période la plus dure, c'était plutôt vers le mois d'août. C'était les expériences des
premières... 15 août, oui.
Vers les premières chimio qui fonctionnaient pas.
Non, quand il y en a une qui m'a entraîné un problème cardiaque, oui, ça c'est...
Oui, il y a eu le cœur.
Oui,
c'est vrai que, bon, ça, ensemble, cet été, oui, quand il y a eu des moments où vraiment, t'as été fragile. Mais ensuite, à partir de la rentrée, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, en effet, dans ce que tu dis dans la praxis, t'as vachement redressé le...
Oui. Yeah. Ah bah oui, j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, je me posais des questions... Mais j'obéissais, j'ai suivi les consignes. Bon, là, à la fin, j'étais vraiment fatiguée, je voulais arrêter, mais parce que j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Mais c'est vous qui m'avez demandé de continuer, donc je l'ai fait.
Et tu as bien fait, puisque ça a fonctionné.
Ça fonctionne un peu, oui. Voilà, mais c'est vrai que c'est une expérience douloureuse, parce que tu rentres dans un trou noir et tu ne sais pas quand tu vas en sortir, ni dans quel état, et tu dois être... confiant et en même temps lucide, tu vois, tu dois jouer...
En plus, t'as des très beaux seins et des très beaux cheveux, donc...
Mais même pu avoir un cancer du pied parce qu'ils sont moches,
mais... Oui, au moins là.
Ouais, enfin voilà, bon, c'est pas grave. Non, non, mais ça apporte beaucoup de choses aussi, hein. Oh là là.
Ouais.
Ah ouais, c'est déjà un divorce, ça te fait évoluer beaucoup, mais la maladie, c'est... Ah, c'est puissance 10. Ouais,
c'est
vrai. Ah, ouais. Tu vois, par rapport à tout ce qu'on se disait sur l'amour, j'ai eu une bonne nouvelle, là, qui était la première depuis 5 mois. Et après, je me suis dit, mais quelles étaient les bonnes nouvelles avant? J'avais des bonnes nouvelles pour toi, pour Emma, tu vois. Mais moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas eu une bonne nouvelle pour moi.
Pour toi.
Tu vois. Et donc, voilà, j'ai envie que ces bonnes nouvelles pour moi se reproduisent, tu vois. Que ça te donne un égoïsme.
Mais il y a une autre bonne nouvelle, c'est cette nouvelle apprentie avec qui tu travailles. Parce qu'elle t'aide dans ton travail, c'est une compagnie, elle bosse bien.
Oui, en fait, j'aime bien être seule. Hein,
ah ouais.
À la maison comme au bureau. D'ailleurs, elle ne vient pas toute la semaine, ça va. Elle ne vient que 3 jours par semaine. Oui, oui, oui. Oui, ça me soulage beaucoup le travail. Oui, bien sûr. Puis j'aime bien former, tu vois. Prof, j'aurais pas... Si, j'ai enseigné un petit peu dans une école de cinéma, la production, mais pas longtemps. C'est vrai que c'est enthousiasmant, mais dans un lycée, non, j'aurais pas pu être prof. Hein. J'aurais pété 40 câbles. Quoi. Et là, j'accompagne des apprentis et j'essaye de qu'ils s'en sortent et qu'ils trouvent du travail après. Déjà qu'ils rentrent, qu'ils bossent, qu'ils aient leur diplôme et qu'ils aient un débouché professionnel. Et elle, c'est comme ça aussi que je la forme, tu vois, et que aussi quand il y a eu la minute de silence pour
Samuel Paty.
Samuel Paty, je lui ai demandé, elle n'avait pas écouté d'écouter le truc, l'hommage au Panthéon, tu vois. Oui. Non, à la Sorbonne. Elle a découvert Juliette Gréco avec nous, tu vois. Mm-hmm. Voilà.
C'est comme si t'étais grand-mère.
C'est un peu ma petite fille, oui. Voilà. Et voilà, je lui apporte aussi quelque chose qu'elle n'a pas, tu vois. Mon père, quand on était petit, il s'occupait avec d'autres personnes. Ça s'appelait les équipes sociales. Il donnait des conférences à des ouvriers. C'était un truc catholique, tu vois. Il leur apportait de la culture. Il faisait des conférences sur des sujets, Saint-Exupéry, des choses comme ça. Voilà. Et j'ai jamais reproduit ça, mais je pense que la transmission du savoir est quelque chose de très enthousiasmant. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Et de transmettre quelque chose, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau. Mm. Prof, je ne pourrais pas transmettre parce qu'en fait, ils n'en ont rien à cirer. Mais elle, c'est très bien aller dans une position où elle apprend et elle a choisi d'apprendre, tu vois, elle est apprentie. Et donc, elle est très contente. Mm. Elle n'est pas bien quand je n'y vais pas le vendredi, elle m'appelle tout le temps, quoi. Mm. Voilà. Mm. Et donc... Et je suis très cool avec elle aussi, parce que peut-être que je suis malade et que, voilà, je veux dire, ce qui compte, c'est d'aller bien. Je n'ai pas envie qu'elle se fasse chier avec moi. Mais même avant, je crois que j'aurais été... Puis je l'ai choisie. On a fait un casting, hein. Il y en avait 3, j'ai pris celle-là. Donc j'ai envie qu'elle se sente bien aussi, parce que je l'apprécie et que je l'estime, tu vois. Mm. Si on m'avait imposé quelqu'un qui ne m'aurait pas plu, j'aurais pas été comme ça. Donc là, ça tombe, ça se passe bien.
Et ce qui est important aussi dans ta vie, c'est tes amitiés.
Ah oui, voilà, oh là, oh ouais, des copines incroyables, ouais, qui sont très gentilles, qui savent pas quoi faire pour m'aider. Moi, j'ose pas, j'ai pas envie de les déranger, tu vois. Donc, en fait, ma sœur me disait, mais laisse-les, ça les fait plaisir parce qu'elles savent pas quoi faire pour te faire plaisir, donc laisse-les faire et tout. Donc là, Nicole, elle m'a amenée 2 fois à l'hôpital cette semaine, tu vois, elle était contente.
Mmh. Ben oui.
Donc j'étais contente pour elle. Quoi.
Ben ouais. Oui, c'est beau. Et puis ouais. Marie-Pierre aussi. Mmh.
Marie-Pierre, c'est bon, voilà. Si je devais devenir homosexuelle un jour, ça serait avec Marie-Pierre. Enfin, il faudrait qu'elle divorce ou qu'elle devienne veuve avant. Et puis, non, voilà. Non, c'est
quelqu'un de... Vous formez peut-être une espèce de couple parfait sans le sexe, quoi.
Ah oui, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Incroyablement généreux et...
Mais tu sais, c'est plus ou moins ce que me disait John Malkovich. Quand cet épisode sortira, l'épisode avec John Malkovich sera sorti. Dans la discussion que j'ai eue avec lui, il a plus ou moins éradiqué le sexe de sa vie, j'ai l'impression. Enfin, c'est quelque chose qui avait... Quand je lui ai posé la question de l'amour et de ses histoires passionnées avec les actrices, il avait l'impression que c'était derrière lui. Que c'était une période de sa vie, mais qu'aujourd'hui, il disait, ce qui l'intéresse le plus, c'est les amitiés, les affinités intellectuelles, les complicités, travailler ensemble dans le travail, et que ouais. Souvent, le sexe peut gâcher ça.
C'est vrai. Ah ouais, ouais, ça... ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais. C'est sûr que c'est...
C'est à double tranchant.
Ouais, ouais, complètement, complètement. Et puis, quand ça devient trop pépère, les mecs se lassent, ou tu vois, il n'y a plus... Quand il n'y a plus la passion, moi, je peux pas aimer une personne de la même façon pendant 10 ans, tu vois, ça
sûr.
Évolue, mais et ça me gêne pas. Mais bon, il y en a qui voudraient toujours. Je pense que c'est pour ça qu'ils vont voir ailleurs, quoi, parce qu'ils ont plus les mêmes émotions qu'au premier jour. Les hommes, je pense que c'est plus. Et donc il y a toujours cette aussi. Moi, j'avais toujours peur que d'être trompée, que qui est mieux que moi, tu vois. On est aussi dans une situation de concurrence, quoi, quand on est marié, tu vois, quand on... parce qu'il y a tellement de possibilités autour de soi. Voilà. Et c'est vrai que quand t'es plus dans cette situation-là, t'es plus en danger de perte ou de quoi que ce soit. Et...
À tout prix te battre pour le désir de quelqu'un.
Ah ouais, et... ouais, ouais, c'est tellement plus cool. T'as le temps de t'occuper de toi, voilà. Mm. Ouais. C'est vrai que ça te permet ça. Bon, il y a... Avec Philippe, il y avait pas ce, enfin, il y avait d'autres choses, mais disons que c'est souvent le cas, je crois que.
Bah, il était aussi un peu dragueur. Hein.
Ah, mais oui, mais il passait pas du tout à l'acte. C'était son côté safe, tu vois. Il y a des mecs comme ça qui matent les femmes, mais ça s'arrête là. Mais c'est très douloureux pour moi. C'était insupportable. Je n'aimais pas du tout. Alors qu'en Italie, quand j'ai vécu en Italie, je n'ai jamais été avec un mec... Tu vois, ça fait vraiment le cliché du méditerranéen. Tu sais, qui mate.
Ouais.
Et puis voilà. Mais en fait, il y en a qui ne matent pas et qui trompent quand même. Donc, c'est... Voilà.
C'est dur de traverser ça, de traverser l'expérience de l'amour homosexuel, je sais pas, mais en tout cas hétérosexuel, de traverser sans se perdre soi, quoi. C'est, ouais. C'est sans se perdre...
Oui, et puis quand tu parlais de Barbara, je veux dire, à l'époque, voilà, toutes les histoires d'amour, elles étaient tristes, elles finissaient, je veux dire, il y avait toujours...
Il n'y a pas d'amour heureux.
Il n'y a pas d'amour heureux, voilà. À part Claude François, tu vois. Mais sinon, Barbara, Brassens, Brel. Donc, c'était même la littérature, quoi. T'écris pas sur le bonheur.
Après, il y a des couples qui, en effet, qui arrivent à trouver une espèce de compagnonnage tranquille et calme.
Oui, bien sûr.
Dont tu vois d'amis à toi ou...
Oui.
Et qui arrive à s'apporter de la tendresse, de l'affection, des attentions, sans peut-être mettre à ce point la sexualité et le désir en jeu, et qui n'ont pas besoin... Il faut peut-être se méfier des hommes narcissiques, en fait.
Ah,
parce
complètement.
Que c'est ouais, eux qui ont tout le temps besoin de validation extérieure. Mmh. Et que
ah oui, non, mais je connais des couples aussi, comme Nicole et Jean-Vic, Marie-Pierre et Georges, qui sont solides et qui sont magnifiques. Hein, ouais. Mmh. Non, c'est bien.
Plus pragmatique.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Oui, je sais pas. Je sais pas ce qui les unit. Un lien que je connais pas, tu vois. Mais bon, je suis sûre qu'ils ont eu des hauts et des bas aussi, mais voilà. J'ai envie que j'ai jamais vu une personne... Nicole, elle a une maladie rare, tu vois. Et je l'ai vue quand il s'est occupé d'elle. C'est incroyable. Il était aux petits soins... J'ai jamais vu un mec comme ça, tu vois.
Mais toi, tu
comme
dis
une
que...
femme peut l'être avec un mec.
Oui, c'est ça. Mais tu dis que dans la vingtaine, les hommes gentils, finalement, tu les larguais.
Oui, mais parce que gentils, c'est pas que... ils n'étaient pas que gentils. Des fois, ils étaient mous aussi.
Ouais, un peu faiblards.
Ouais, voilà, tu vois. Moi, maintenant, je veux dire, les mecs gentils, ça serait les mecs cool, tu vois.
Oui.
Ça me plairait pas, quoi.
Faut pas que ce soit quelque chose pour cacher un manque de force.
Faire du vélo, pas prendre de danger, enfin, tu vois, faire...
Ouais, c'est bien réfléchir. Faire du vélo.
Oui, non, mais ça va avec le truc...
Ça n'a rien à voir, c'est ton côté anti-bobo.
voilà. Ne pas trop travailler, ne pas trop se fatiguer, ne pas, tu vois, pas prendre de risques. Ne pas vivre complètement...
Oui, mais résultat, ensuite, ça t'a amené vers quelqu'un qui travaille, dont la vie n'était que le travail, qui était boulimique de travail et qui était et qui prenait tellement de risques qu'il en a eu des maladies.
C'est vrai. Ouais, non, t'as raison. D'ailleurs, moi, je devrais un jour m'arrêter de travailler, mais tu vois, je me demande qu'est-ce que je ferais, quoi. Je vois, j'aime tellement travailler, j'aime tellement le contact avec les autres, faire des choses, tu vois, que...
Mais je pense que tu transmettras toute ta vie. Il y a travail et travail,
oui.
Tu vois. C'est vrai que toi, de ce que tu dis, c'est assez beau, et puis ça perpétue quelque chose de ton éducation.
Ouais. Je vois ma sœur aînée, là, elle me racontait, là, avec Marie-Pierre, elle nous racontait mercredi qu'elle avait été à un concert et elle avait de musique chinoise, et elle est tombée amoureuse de l'instrument... Alors, je sais plus, c'est un nom chinois. Tu sais, c'est comme un genre sitar, entre sitar, harpe et tout. Et elle en a acheté un, elle a pris des cours, et c'est très compliqué, tu vois. Et c'est génial, ça, elle en fait tous les jours, et ça, je trouve ça génial. En plus, c'est bien pour
c'est
l'arthrose.
Beau.
Parce qu'elle, et puis c'est compliqué, parce que t'as quatre notes, mais c'est des chiffres, tu vois. Donc, quand tu joues, la partition, c'est des chiffres. Et donc, qui correspondent à des cordes et à des emplacements sur les cordes. Donc, ça te fait travailler la tête aussi, tu vois.
Toi, qu'est-ce que tu voudrais apprendre, là ?
Après ? Qu'est-ce que je voudrais apprendre ?
Ou pratiquer, ou...
La peinture, je me dis, quelque chose avec mes mains, tu vois. Mmh. J'ai jamais été très douée en peinture. Et quelque chose d'artistique, ouais. Quelque chose de manuel, ouais, ouais. Bon, la cuisine, ça va.
Ça, tu maîtrises.
La couture, j'ai dit à ma sœur que, oui, je... après, je me dis, on va passer un temps fou. Vaut mieux acheter des choses d'occasion. La mécanique, non. Ça, non, j'apprendrai jamais à changer d'ampoule. Je ne vais pas prendre des cours d'informatique non plus, mais quelque chose d'artistique, ouais. La peinture ou la sculpture, tu vois. Quelque chose de manuel, ouais. Ça me plairait.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, là ? Qu'est-ce que tu souhaites ?
Qu'est-ce que je souhaite ? Ben, de découvrir encore, là, comme je le fais depuis quelques mois, cette énergie en moi et savourer tellement la vie, quoi, quand elle va bien. De voir comme c'est génial. Bon, et d'accepter aussi qu'il y a des tuiles qui tombent, et puis voilà, il faut passer à travers. Et puis quand tu ne passes pas à travers, il faut te relever, et puis... Puis tu te dis, voilà, il faut faire confiance aux autres qui ils vont te remettre sur pied.
Je t'aime. Merci, maman. Voilà, j'étais très émue à la fin de la discussion avec ma mère. Je n'ai pas posé les petites questions de Proust, donc je rattrape là. Je l'ai appelée, mais avant de finir l'épisode avec l'appel téléphonique, quelques petits points d'éclaircissement par rapport à la discussion que vous venez d'écouter. Mon poème, pour maman, était assez court. J'avoue que j'ai l'impression de lui avoir déjà tant dit des mots d'amour et que j'attendais aussi que ce soit elle qui décide ou pas d'aborder sa maladie, son cancer du sein. Et mine de rien, c'est un exercice différent d'interviewer ses proches que des personnes qu'on ne connaît pas, auxquelles on parle pour la première fois. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas psychanalyser son entourage, ses parents, ses enfants. Peut-être que mes invités sont un peu comme mes patients. Et j'observe d'ailleurs que les femmes sont plus en contrôle, elles ont plus réfléchi à leurs émotions. Les hommes ne se rendent pas compte parfois de ce qu'ils livrent. Vérino qui se met en couple l'année où ses parents se séparent, par exemple. Edgar Yves qui se remémore une histoire avec un homme. La parole inconsciente arrive plus brute chez mes invités masculins, tandis que les femmes ont organisé leurs pensées autour de l'idée de l'amour. Non ? C'est des généralités ? Mais je suis très curieuse de vos observations sur ce Winter Special féminin. Eratum, je dis dans l'épisode, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as perdu ta virginité ? Bon, a priori, on ne perd pas plusieurs fois sa virginité. Da. Concernant le rapport de ma mère au judaïsme et pourquoi elle était dans une école catholique enfant, je vous recommande l'épisode avec Marina Rollman où je reviens plus sur mes origines maternelles. Enfin, après vérification, l'amoureux d'Elena Gréco, le personnage d'Elena Ferrante dans L'Amie prodigieuse, s'appelle bien Nino Sartore. Et le premier amoureux de ma mère s'appelait Rémi Sartore. Voilà, on finit avec ses réponses au questionnaire de Proust.
Oui, ma chérie.
Oui, Mamounette. Alors, est-ce que tu es prête pour les questions du questionnaire de Proust ?
Yes.
Alors, la qualité que tu préfères chez un homme ?
L'humour.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
La gentillesse.
Le principal trait de ton caractère ?
Qu'est-ce que je suis ?
Ah.
Bon, je suis généreuse, je suis gentille. Hein.
Oui.
Non ?
Si. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
La bonne humeur.
Mm-hmm. Ton principal défaut ?
La curiosité.
Ton occupation préférée ?
Les mots croisés.
Ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur ? D'avoir des nouvelles de mes enfants et de savoir qu'elles vont bien.
Mm-hmm. Quel serait ton plus grand malheur ?
De perdre un de mes enfants.
Où aimerais-tu vivre ?
J'aime bien vivre à Paris. Sinon, j'aime bien vivre en Italie aussi. Hein.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
Ce que je déteste par-dessus tout, l'arrogance.
Un don, un talent que tu aimerais avoir.
Savoir jouer du piano.
Comment aimerais-tu mourir?
Dans mon lit, dans la nuit.
Ton état d'esprit actuel?
Ça va, j'attends que les fêtes passent parce que j'aime pas cette période.
Ouais.
Mais ça va, ça va.
Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence?
L'énervement des gens. Les fautes, j'aime pas ce terme-là. Les défauts, les fautes.
Est-ce que, par exemple, il y a des défauts qui t'inspirent de la tendresse chez tes copines, si, par exemple, des manies, des quelques, peut-être justement la curiosité pour. Est-ce que tu vois les gens curieux ou est-ce que tu, par exemple, peut-être, tu vois, non?
Oh, mes copines, je ne leur vois pas de défauts. Elles sont, tu vois, quand
ouais.
on s'entend bien,
ouais.
pas des défauts ni des. Non, ça va.
Ouais, ouais.
On est quand même très à l'écoute les unes des autres. Donc, voilà, on se comprend.
Ouais.
Ça va.
Ta devise favorite?
Carpe diem.
Ouais, super, merci maman.
De rien, ma chérie.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast « @lesmecsquejeveuxken » sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.